Vous êtes bien sur Radio Orion, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Colette Capdevielle, députée de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, conseillère municipale de Bayonne, conseillère communautaire, députée du Parti Socialiste. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Tout d'abord, cette enquête de SOS Racisme, d'après les tests réalisés par l'association dans des discothèques et des plages privées du sud de la France, un établissement sur trois pratiquerait une discrimination à l'entrée envers des personnes perçues comme noires ou arabes. L'association a porté plainte. SOS Racisme appelle les pouvoirs publics à agir. Alors la question c'est comment, sachant qu'il y a aujourd'hui un véritable arsenal législatif pour lutter contre les discriminations, l'on voit que cela ne suffit pas. Que préconisez-vous en tant que représentante du peuple français, madame ?
Le problème c'est l'application de la loi et les sanctions. Parce que effectivement, j'avais d'ailleurs interrogé dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement le ministre, le premier ministre d'ailleurs, à ce sujet, concernant la question également pour les logements, parce qu'on retrouve exactement les mêmes choses et on se rend compte qu'en fait, finalement, rien ne change. On a beau légiférer, finalement, les pratiques, malheureusement, restent les mêmes, c'est-à-dire que ces établissements commettent des infractions. Ce sont des délits. Il faut quand même rappeler que ce ne sont pas des comportements acceptables, hein. Ce sont des comportements qui sont prohibés par la loi. Je pense que ça, c'est quand même important de le rappeler. La question, c'est ensuite la capacité par les pouvoirs publics de pouvoir faire les contrôles, et donc une fois que les contrôles sont faits, eh bien d'engager des poursuites. Enfin, c'est ça le véritable problème. Les lois existent, mais malheureusement, et c'est très inquiétant d'ailleurs. Et ce qui est encore plus inquiétant, parce que je lisais tout à l'heure effectivement les résultats de cette enquête, et je lisais les commentaires sur la presse, et je m'étonnais vraiment des commentaires de certains lecteurs, notamment d'un grand quotidien national, qui eux ne s'étonnaient pas et trouvaient finalement que ces discriminations étaient finalement assez normales, certains les mettant sous le couvert de la liberté du commerce.
Voilà. Vous lisiez les commentaires du quotidien Le Figaro, oui. Et vous y avez vu donc des messages clairement racistes.
Oui.
Sur cela aussi, il faut peut-être légiférer. L'Assemblée vient de légiférer justement sur l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes âgés de moins de 15 ans. Êtes-vous pour l'anonymat, justement, lors de ce type de commentaire, ou est-ce qu'il faut lever cet anonymat ? Rappelons que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit.
Moi, je pense qu'il faut lever l'anonymat, c'est une évidence. Hein. Quelqu'un qui s'exprime, la liberté d'expression, c'est la condition de savoir qui s'exprime. Et comme ça, au moins, on pourrait vérifier s'il y a des ingérences étrangères, par exemple. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, moi, je pense que en interdisant aux jeunes, on pense les protéger, on pense se protéger, mais en fait, le véritable problème, c'est la responsabilité des plateformes. C'est la responsabilité des plateformes qui laissent diffuser des contenus racistes, xénophobes, pédocriminels. C'est ça le problème. Ce sont les plateformes qui finalement se lavent les mains de tout cela. Alors, bien sûr qu'il faut protéger les jeunes. Il faut d'ailleurs protéger tout le monde.
Colette Capdevielle, vous êtes députée socialiste, élue de Bayonne. C'est à environ une heure de route de la Gironde, des feux aujourd'hui qui ravagent une large partie de ce département. Les images sont particulièrement impressionnantes. Des milliers d'hectares sont détruits, des habitants évacués, des centaines de pompiers mobilisés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette crise vous inspire en tant qu'élu d'un territoire voisin directement concerné donc par le risque d'incendie?
Oui, oui, nous sommes concernés par la Gironde et les Landes, hein, les Landes qui sont juste à côté.
Bon, absolument.
D'abord, c'est une catastrophe sur le plan humain, c'est une catastrophe sur le plan écologique. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui sans abri. Bon, il y a trois pompiers hein, qui ont perdu la vie, ce qui était épouvantable. Les autres, vraiment, nous devons vraiment leur rendre un hommage très très appuyé parce qu'ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Ça fait des jours et des nuits qu'ils se battent contre le feu. Bon, mais on voit bien aujourd'hui bon, les conséquences, bien évidemment, du dérèglement climatique. Tout est sec, il a fait extrêmement chaud, il n'a pas plu dans les semaines qui ont précédé. Et puis, bon, on a construit dans des zones qui ne trop proche de la forêt. Il y a surtout, je crois que ce qui est vraiment à noter et qui est rassurant dans ce chaos, c'est la solidarité. La solidarité avec les pompiers, avec les forces de l'ordre, avec les soignants, avec tous les professionnels intervenants, de la population et finalement une évacuation qui se fait intelligemment et dans le calme, de personnes qui acceptent, qui très 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 difficile de laisser toute leur vie derrière eux avec le risque de la perdre. Donc il va falloir, bon, c'est sûrement encore trop tôt, il faut pas polémiquer, il faut se poser les bonnes questions et désormais ben tenir compte d'été futurs qui seront caniculaires et qui vont complètement modifier la façon de se comporter.
Oui, voilà. Parce que ces incendies de forêt, cela doit désormais être considéré comme un enjeu majeur de sécurité nationale.
Bien sûr, comme on aura ensuite après les inondations qui vont suivre, parce que la terre est hyper sèche et ne peut plus rien absorber. Et là, c'est une absolue priorité, l'entretien de la forêt. Comment replanter, parce que c'est quand même la forêt des Landes, la forêt de Gironde, c'est le poumon vert d'Aquitaine. Hein. C'est le poumon vert de l'Aquitaine. Cette forêt nous est absolument indispensable dans l'écosystème de la région Aquitaine. Hein. Donc c'est très très grave. L'heure, elle est vraiment à ce que, nous, ici, moi, on a envoyé des messages, on peut héberger, on peut accueillir hein, des personnes qui se retrouvent sans domicile, il n'y a pas de difficulté. Et je pense que la première solidarité, c'est qu'il y a besoin de fonds d'abord hein, pour pouvoir financer. Et je pense que,
bon, est-ce qu'aujourd'hui, à Bayonne, vous accueillez des personnes sinistrées ou pas encore? Oui.
Je sais qu'il y a des familles qui le... Oui, parce que moi, on est venu bien sûr me le demander. Je sais qu'il y a déjà des familles qui accueillent des membres de leur famille. Hein. Ça, je sais qu'il y a déjà, bien sûr, hein, pour tous ceux qui... Bien sûr. Et ce sera le cas. Hein. De toute façon, tout le monde va ouvrir, toutes les personnes qui auront du terrain, des chambres, de la disponibilité. Bien sûr, c'est ce qu'il va falloir faire. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très... qui fait chaud au cœur quand même, qui est rassurant dans ce chaos terrible. J'espère que la leçon va être très vite retenue et qu'on va en tirer tous les conséquences, mais avec les impératifs budgétaires que nous avons. Mais là, ça va être une absolue priorité, puisque là, c'est une question de vie ou de mort, hein, tout simplement.
Et on l'entend, hein, il y a de nombreuses questions qui sont considérées comme prioritaires. Exemple, hein, la question de la protection de l'enfance. Le drame Liana a alimenté les débats, notamment à l'Assemblée nationale à la fin de l'année parlementaire. Une proposition de loi intégrale. Cette protection de l'enfance, quand vous voyez l'ampleur des drames, hein, 160 000 enfants agressés sexuellement chaque année, hein, on sait que dans une classe de 30 personnes, eh bien, il y a plusieurs élèves, trois je crois, qui sont en moyenne victimes de violences sexuelles. Est-ce que là aussi une loi suffit ou alors c'est toute la chaîne qu'il faut revoir et notamment l'écoute de la parole des enfants et arrêter l'impunité vis-à-vis des agresseurs? Ils sont très très peu nombreux à être condamnés.
Ouais. Les politiques en faveur de l'enfance ont toujours été les oubliés, les insensés des politiques publiques. Il n'y a pas de ministre de l'enfance, il n'y a pas de secrétaire d'État de l'enfance à proprement parler. Donc ça, c'est déjà...
Il y a une commissaire à l'enfance,
oui. Oui, mais ça, c'est très important quand même d'avoir un ministère avec des moyens. Donc on a oublié. Ces politiques, elles ont été oubliées, ces chiffres, ils ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier, on les connaît. Les enfants sont probablement la catégorie de population qui souffre le plus parce que c'est la plus vulnérable et c'est celle qui se tait et qui ne parle pas. Donc d'abord, la première des choses, c'est restituer à l'enfant le respect de la parole qu'il porte. Et apprendre aux enfants à parler, à dénoncer, ça c'est quelque chose qui est nouveau et aujourd'hui, plus qu'hier, les enfants ont commencé à parler, on l'a vu avec l'affaire Betaram et toutes les autres affaires qui concernent donc des établissements scolaires, publics ou privés, la plupart du temps quand même des établissements privé.
Les enfants et aussi les adultes qui, enfants, ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles, on l'a vu ces dernières semaines aussi.
Il faut effectivement que la loi évolue, mais sans moyens financiers et sans volonté politique déclinée sur le plan budgétaire, ça ne servira à rien. Faire des lois pour faire des lois, ça ne sert à rien. Par exemple, nous avons voté un texte qui désormais va imposer au procureur de la République d'auditionner la personne plaignante et d'entamer les premiers actes d'enquête dans un délai de 3 mois à compter de la plainte. Donc ça, c'est très important. Bon, si nos services d'enquête, que ce soit police ou gendarmerie, n'ont pas des moyens supplémentaires et du personnel formé, ça ne servira à rien. Ce délai ne pourra pas être respecté. Or, on sait aujourd'hui, et l'affaire, moi je ne donne pas le prénom de cette malheureuse victime, je donne le prénom, je dis c'est l'affaire Barella. Hein, ce n'est pas l'affaire Liana, c'est l'affaire Barella. Dans cette affaire-là, hein, si la première plaignante avait été auditionnée dans ce délai de 3 mois, si les actes d'enquête avaient été menés, la malheureuse Liana serait en vie aujourd'hui. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que dès lors que l'on a une plainte, dès lors qu'un enfant mineur fait état de violence sexuelle, cette parole est prioritaire et la priorité doit être donnée à l'enquête. Ce n'est pas possible de laisser pendant des mois, voire des années, ce qui a été le cas des dossiers, dormir dans des tiroirs et des placards. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est plus acceptable. Et donc, il faut former les enquêteurs, il faut leur donner les outils et il faut également que ces auteurs soient interpellés le plus vite possible parce que on laisse des présumés auteurs dans la nature qui continuent à commettre des très graves infractions puisque s'agissant de viol, je rappelle que ce sont des crimes. Donc oui, modifier la loi, oui, effectivement, donner la priorité, mais en même temps, si on ne l'accompagne pas et si on ne le décline pas dans le prochain budget à venir par des efforts conséquents, ça ne servira à rien.
Supprimer la prescription aussi, quand vous savez que des victimes se souviennent de ce qui leur est arrivé, parfois des dizaines d'années plus tard.
La prescription, c'est effectivement, même si on a beaucoup élargi aujourd'hui les prescriptions, hein, avec 30 ans après la majorité, la prescription glissante s'il y a une victime, ça permet d'ouvrir les autres dossiers, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, par rapport à l'amnésie traumatique, ce n'est pas suffisant. Bon, maintenant, moi je crois qu'il faut beaucoup plus faire tout est important, mais on ne peut pas laisser croire aux victimes que même si on ouvre un dossier 50 ou 60 ans après les faits, ça permettra de pouvoir poursuivre un auteur, la plupart du temps très âgé, et ça pourra aboutir à une condamnation.
Mais cela permettra à la victime de se sentir écoutée et de, si je puis dire, valider ce qui est arrivé.
Oui, en tout cas, ça lui permettra d'avoir au moins à égalité de déposer plainte. Mais 50 ans après les faits, je me permets quand même de rappeler que uniquement 3% des plaintes pour viol terminent par la condamnation de l'auteur. 3%. Et s'agissant de viol incestueux, c'est 1%. Donc voilà quels sont les chiffres actuels. Donc moi, je crois que le travail qui reste à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enquêtes soient diligentées dans les meilleurs délais, que l'on donne des moyens aux enquêteurs de poursuivre les enquêtes et surtout que les victimes parlent le plus tôt possible. Parce que c'est effectivement souvent une question de preuves. Et les preuves, elles sont souvent médico-légales. C'est-à-dire, ce sont des constatations médicales, ce sont des prélèvements, des analyses. Et c'est ça qui est important pour que la victime puisse être crue et que surtout, l'auteur puisse être interpellé, appréhendé et ensuite condamné. Et il faut aussi que les auteurs sachent que le crime n'est pas impuni. Parce que quand on donne ces chiffres de 3%, c'est glaçant quand même. Ça veut dire que 97% des viols ne sont pas poursuivis, n'aboutissent pas par une condamnation. Même s'ils sont poursuivis, à la fin, il n'y a pas de condamnation.
Et il y a un sentiment d'impunité de la part des prédateurs. Voilà ce qui en résulte. Une question concernant l'étudiante Marie-Thérèse Gomis. Elle est visée par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Vous, Colette Capdevielle, vous vous êtes engagée personnellement dans cette affaire, notamment auprès du préfet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étudiante et nous dire pourquoi est-ce que cela vous touche particulièrement ?
Alors, c'est une étudiante d'origine sénégalaise qui est venue étudier en France. Alors, elle a eu un petit problème de parcours, elle a dû changer d'orientation, mais elle a fait des études brillantes. Elle a aujourd'hui un bac plus 5, elle a obtenu en 9 ans. Ses formateurs, à la fois ses formateurs, mais également les professionnels avec lesquels elle travaille, disent que c'est la meilleure élève de la promotion. Elle travaille en gestion patrimoniale, elle est excellente. C'est une fille travailleuse qui a également toujours travaillé en France, hein, fait différents petits jobs pour pouvoir financer sa vie ici. Elle a deux sœurs également qui vivent régulièrement en France. Bon, le Sénégal est un pays partenaire de la France, un pays ami avec lequel il y a toujours eu de bonnes relations. Et donc le préfet, alors qui a quitté le département des Pyrénées-Atlantiques et qui a été nommé dans le Sud-Est, a pris plusieurs OQTF, dont une a déjà été annulée par le tribunal administratif. Donc la justice est de nouveau saisie. Et il y aura une audience, je crois, ces jours-ci. Et donc on attend le résultat. Le ministre de l'Intérieur a également, Laura Nunez, et saisie de cette situation. C'est une jeune femme qui coche toutes les cases en termes d'intégration. Elle travaille, elle a créé une société, elle a toujours travaillé, elle est parfaitement intégrée, elle a des diplômes, elle paye son loyer, voilà, elle vit dans la petite ville du Boucau, qui est dans ma circonscription. Elle vient d'être parrainée par Monsieur le maire de Bayonne et Madame la maire de Mouguère. Donc, elle remplit toutes les cases. C'est typiquement une personne qui a pleinement sa place dans notre communauté et nous sommes très nombreux à nous battre pour elle.
Et on l'entend à travers votre propos. Hein, voilà, c'est une personne qui peut apporter beaucoup, notamment à votre commune et plus globalement à la France. Hein. C'est en substance le message que vous délivrez aujourd'hui. Un grand merci, Madame Colette Capdevielle. Je rappelle que vous êtes...
Fraternité, surtout. Voilà, nous, ce que l'on dit, c'est que dans la devise de la République, on oublie le troisième mot, c'est-à-dire la fraternité. La fraternité, c'est regarder l'autre comme un frère ou une sœur. À partir du moment où il vit avec nous, il partage les mêmes valeurs que nous, les valeurs républicaines, et qu'il apporte à notre société. Donc on ne doit pas lui fermer la porte, on doit l'ouvrir tout grand. Et moi, j'espère que ce message, vraiment, doit aujourd'hui être entendu.
Il sera en tous les cas diffusé. Merci, madame. Vous êtes
merci
députée de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, conseillère municipale de Bayonne, conseillère communautaire. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.